Françoise Tressart et la belle équipe. En place pour la récré, à l'affiche joli dimanche et inventaire des nouveaux prix, suivi d'un pamphlet contre les Beatles par Lucas Fournier.
J'ai vu la baie d'Along, d'une jonque monter l'air du sous-marin jaune. J'ai vu la ruelle où est né Bulgakov à Kiev. Un saxophoniste y jouait Penny Lane. Et même dans le café-bar de Lamalou-les-Bains où j'achète un ticket à gratter, Radio Nostalgie m'inflige, give me a ticket to ride.
Et puis, les joueurs Joncourt jouaient Beignet Bertrand pour des gonflements de prose, le petit Rimailleur pour le bonheur et l'image, tout un programme. Et en conclusion, le DLA, piège tendu par Jérôme Clément à quatre experts dont Patrice Minet.
Il n'est pas du tout certain, il est peut-être probable. Vous voyez, c'est simple, c'est clair, c'est léger, ça prend pas la tête. Et au fond, ça fait résonner des choses amusantes et peut-être réfléchir certains, pas d'autres.
Ensemble pour le plaisir du jeu jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à télécharger pendant un an, à réécouter pendant 1000 jours. Merci de votre fidélité à nos Papous du dimanche. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en 2015. Annotez sur vos tablettes, tactiles ou non, si vous habitez au Havre ou si vous êtes de passage, le samedi 24 janvier, venez tous au Magic Mirrors à 20h, assister à une lecture de texte écrit pour des papous dans la tête. Les papous lisent les papous. Pas d'enregistrement, mais le plaisir de la rencontre. Avec moi sur la scène du Magic Mirrors, Dominique Muller, Gérard Mordilla, Lucas Fournier et Serge Joncourt. Et ensuite, eh bien, nous dédicacerons tous nos recueils collectifs et c'est un très bon moment pour se parler. Les Papous au Havre, le samedi 24 janvier pour le festival Le Goût des Autres. Les renseignements, eh bien, vous pouvez les retrouver sur franceculture.fr, à la page des Papous Vie du Club et sur notre page Facebook. Ce sera un très joli samedi. Et pour le beau dimanche, place maintenant à Jacques Jouet. Il préfère les beaux dimanches aux jolis dimanches, Jacques. Allez savoir pourquoi. Le programme, Jacques Jouet.
Le beau dimanche de Jules Verne. Ah. Le Sunday Pudding de la East India and Pacific Steam Navigation Company se trouvait à 2000 milles marins de l'île de Tromelin à l'est de Madagascar quand son capitaine Archibald Scottish eut un mauvais pressentiment. À l'époque où ces événements se produisirent, Archibald Scottish, le plus superstitieux des capitaines de vaisseau de sa gracieuse majesté, mettait un point d'honneur, et le lecteur sait que l'honneur n'est pas un vain mot au pays de l'amiral Nelson, sur lequel le soleil ne se couche pas, mettait un point d'honneur à ne pas mettre à la voile, à ne pas lancer les machines à vapeur de son bâtiment et à ne pas tolérer la moindre saisie de rame dans les mains d'équipages courageux le dimanche. Le Sunday Pudding, disait Archibald Scottish, est un bon navire, mais un bon navire ne peut donner que ce qu'il a. Le Sunday Pudding n'avait rien à se reprocher, ayant tout fait pour réussir, et il avait réussi, effectivement. Ce jour-là, le Sunday Pudding se tenait sous petite vapeur, en filant à peine un nœud marin s'entend. Il se trouvait alors par 15 degrés, 31 minutes et 15 secondes de latitude sud et 54 degrés, 29 minutes et 1 seconde est. Le soleil tapait sur le Sunday Pudding comme la voûte d'un four de briques sur la fournée du jour. Archibald Scottish avait ses nerfs qui vibraient sous l'influence d'un sentiment inédit. « La barre à droite, machine en avant !» cria soudain le pilote. Mais cette terrible injonction, qui n'avait pas pris la peine de passer par la voie hiérarchique, ce qui en disait long sur son urgence, n'eut pas assez de force pour éviter le choc imprévisible, celui d'une myriade de pétrels à ailes noires, Pteronoma nigripensis, qui se précipitaient sur les membrures de chêne du Sunday Pudding pour les piqueter de coups de bec comme si c'était du pain béni. Archibald Scottish se signa, pensant arriver sa dernière heure, celle de son équipage et de son navire. Ses lèvres pincées, ses sourcils en bataille indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe. Jamais le Sunday Pudding ne périra le dimanche, marmonna-t-il en desserrant à peine les lèvres. Soudain,
I am announcing Captain Jeffrey Spaulding.
He's announcing Captain Jeffrey Spaulding. Oh dear, he's coming.
Je catalogue pour le plaisir des inventaires et pour nos listes en tout genre un sujet qu'il était temps d'aborder, celui des prix. Si vous en aviez le loisir, quel nouveau prix aimeriez-vous lancer cette année? Et pour récompenser qui ou quoi? Avec Jean-Bernard Pouy, Jacques Jouet, Patrice Delbourg et Odile Conseil qui nous rejoindra en cours de route. Jacques Jouet, un premier prix.
Autrefois, j'ai eu le prix Burger King. Oui, c'était un prix littéraire qui était donné une année, pas deux, hein, par la firme Burger King. Il y a même une photo dans le Parisien Libéré où je tiens un chèque d'un mètre de large collé sur du polystyrène expansé. Ça a été longtemps mon seul prix. Je veux créer le prix littéraire de celui qui n'a jamais eu qu'un prix et n'en aura pas d'autre. Ça s'appellera le prix unique du livre. Peut-être Jack Lang pourrait l'avoir la première fois.
Jean-Bernard Pouy.
Ouais, je vais faire le prix Jean-Bernard Pouy.
Oui.
Uniquement décerné à moi-même.
Ah.
Et doté d'un objet d'art ringard atroce que je possède déjà, mais que je ne parviens pas à jeter. Le jury, c'est moi et moi tout seul. Mais il me faut à chaque fois plusieurs semaines pour décider la raison valable pour laquelle ce prix m'est décerné.
On peut assister à la remise du prix?
Non, c'est
on n'est même pas invité.
Imprimé, oui. Oui.
Ah oui, Lucas Fournier.
Moi, il n'y a pas de raison, donc moi je vais faire le prix Lucas Fournier.
Oui, bien sûr.
Qui est décerné chaque année. Ce prix récompensera l'auteur d'une œuvre littéraire, théâtrale, cinématographique ou artistique qui promeut les hauts cantons, dont la Malou est le centre. Alors, parmi les lauréats potentiels, Jo Bousquet, Gérard Mordilla, Alphonse Daudet, qui ont chacun à leur façon exprimé l'âpre beauté de la Malou. Le vainqueur recevra soit un bon pour une soirée au casino, soit pour une représentation au Festival d'Opérette.
Ah, ça, c'est bien. Mmh. Ah, j'aimerais bien gagner ça.
Écrivez,
moi.
Hein.
Oui, d'accord. Patrice Delbourg.
Le Ménat d'or sera attribué au chanteur le moins original de sa génération.
On a le choix des noms. Jacques Jouet.
Je voudrais créer le prix Julien Gracq ou le prix Jean-Paul Sartre, l'un ou l'autre. Mm-hmm. Ce sera le prix du refuseur de prix. Vous savez que l'un avait refusé le Goncourt et l'autre le Nobel. Montant du prix, 30 000 euros. C'est confortable. Je peux me permettre de donner cette somme puisque le lauréat refusera le prix. Celui qui est primé est choisi parce qu'on parie qu'il refusera le prix. Évidemment, il peut aussi l'accepter. Mais à ce moment-là, il se ridiculise et moi, je me ruine.
Surtout refuser le Nobel, hein, c'est pas 30 000 euros. Hein.
Ouais.
500 000 euros maintenant.
Ah, vous vous êtes renseigné?
Je suis renseigné parce que j'ai mes chances. Alors, après le prix Jean-Bernard Pouy, il y a le prix J.B. Pouy.
Ah bon?
Dit aussi prix d'amis. Ah. Et c'est uniquement décerné à moi-même, toujours. C'est surtout un encouragement à continuer, malgré toutes sortes d'oppositions. Comme je n'ai jamais un sou d'avance, ce n'est pas un prix richement doté. C'est seulement une façon de bien commencer l'année. Inutile de préciser que les négociations avec moi-même sont longues et ardues.
Et un peu nombriliste, Jean-Bernard Pouy, non? Vous ne trouvez pas?
C'est la solitude.
Patrice.
La coupe Thénardier ira au patron d'entreprise qui exploite le plus ses employés.
On ne citera personne. Jacques Jouet, quel prix?
Le prix du meilleur lecteur. Cela suppose d'organiser un championnat de lecture.
Ouais.
Par exemple, les candidats qui n'ont pas dormi depuis 48 heures sous contrôle médical, sans possibilité de dopage évidemment, doivent lire « Un homme qui dort » de Georges Perec ou « Le grand sommeil » de Chandler à haute voix et sans s'assoupir. Certificat médical exigé, Monsieur X n'est pas insomniaque.
Jean-Bernard Pouy, vous allez tenter le prix, là, cette façon?
Pourquoi pas, sans bien, je connais par cœur, donc
ouais.
Ça sera plus facile. Alors, moi, je tente le prix JB, qui est dit aussi prix moitié prix.
Ah bon, c'est bien.
Alors, uniquement décerné, bien sûr, à moi-même, oui. Et récompensant une bonne action accomplie dans l'année.
Oh, ben, vous
pour
allez
les négociations
avoir le
et séances de mon jury populaire personnel, je peux me faire aider de personnes extérieures, mais exclusivement faisant partie de ma famille et de mes proches.
D'accord. Bon, on est exclu complètement des prix de Jean-Bernard Pouy.
Il n'y a pas de raison, il n'y a rien à toucher, vous ne regrettez rien.
Oui, mais au moins comme spectateur. Jacques Jouet.
J'aimerais créer le prix des prix. Vous savez, parfois, il y a des prix qu'on n'a pas envie d'avoir. J'ai rencontré la semaine dernière un romancier qui a eu le prix du ministère de la Défense. Il était très vexé. Donc, le prix des prix, c'est le prix de vos rêves. Vous êtes lauréat, vous choisissez votre prix. Le Pulitzer, le prix de l'électrice de L, le prix de beauté, à votre guise. De cette façon, Jean-Bernard peut avoir le prix Nobel.
Le prix de beauté, je préfère.
Le prix de beauté?
Oui. Ouais, non, mais le prix Nobel, ça me va. Hein.
Oui, quand même.
J'accepte, moi.
Oui, alors maintenant, vous nous proposez le prix J.B.
Le prix Pouy dit aussi prix TTC. Alors, uniquement décerné à moi-même, bien évidemment, et récompensant le meilleur des brouillons, textes inusités ou papiers de corbeille retrouvés au moment de tout jeter à la poubelle. Pas de délibération, ce prix est le résultat d'un tirage au sort et est récompensé d'un lot de sacs poubelles 30 litres à poignée.
Lucas.
Moi, je voudrais qu'on décerne le RC d'honneur. Vous savez que l'art de la conversation est très difficile, de moins en moins pratiqué depuis Proust, Malraux, Cocteau, et malgré les efforts de Jean d'Ormesson, cet art tombe en désuétude. Et je voudrais le réhabiliter en créant une récompense pour ceux qui cessaient à converser en un lieu où c'est indispensable et difficile, l'ascenseur. Mmh. Donc le RC d'honneur ne veut pas dire le René de Chateaubriand, mais le roux et combalusier d'honneur qui irait à celui qui serait le mieux engagé, tenir et conclure, surtout, une brève conversation dans un ascenseur.
Eh oui, parce que parfois, on n'a qu'un étage pour le faire.
Faire
oui.
Attention, parce que RC, c'est rez-de-chaussée aussi dans un ascenseur.
Il est vrai, oui.
Il est vrai, hein. Donc,
ça alors.
Pas mélanger.
Patrice Delbourg.
Ça, c'est étonnant, hein. Je sais que la vie a des hauts et des bas, mais le prix Roux-Combalusier sera attribué au journaliste qui manie les plus savants renvois d'ascenseur d'un journal à l'autre, pour le compte d'officines qui le nourrissent.
Le prix Miro récompenserait non pas une œuvre d'art, mais le roman de l'année imprimé dans le plus gros caractère, encore 16 ou 18, pour lui donner de l'épaisseur de la main alors qu'il est surtout plein de vide.
C'est bien ça.
Si on veut être aimable, on offrira au gagnant l'intégrale de l'œuvre de Victor Hugo pour lui montrer ce qu'est un écrivain, un vrai, un courageux, mais on peut aussi offrir au vainqueur une grande boîte de poudre aux yeux.
Monsieur Pouilly.
Alors je continue, il y a le prix JBP.
Vous ne l'avez pas déjà fait celui-là, non?
Non, 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 il y a
Jean-Bernard Pouilly,
JBP maintenant. Prix réduit.
Oh là là.
Ce prix qui m'est uniquement réservé, bien sûr, est destiné à récompenser l'un de mes projets les plus prometteurs. Moi seul suis capable de savoir le nombre et la valeur des postulants. Même si je suis le seul à décider, les négociations sont ardues. Le projet retenu aura peut-être le droit d'exister dans l'année suivante.
Pas mal, c'est prometteur, ça. Hein. Et Jacques Jouet, pour le mot de la fin, pour le prix de la fin.
Oui, alors le prix du bas du dos. Le prix du bas du dos pourrait primer une œuvre érotique, particulièrement subtile, qui s'illustrerait par la généralisation de l'euphémisme dans l'écriture. Par exemple, chaque fois qu'il devrait y avoir le mot « que », on lirait « file d'attente ».
Raymond, file d'attente, non.
Le prix du bas du dos.
Le prix du bas du dos.
Alain Bagot pourrait l'avoir.
Oui.
Alain Bagot, oui.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard pour graines d'ananas. Il y avait des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. Oh, c'est pas moi qui le dis, non, c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi, c'est jamais peinard. La graine d'ananas.
Philippe Léotard. Râleur à vos coups de gueule. Je ne parle pas évidemment des grands sujets de fâcherie, mais des petites choses qui usent le quotidien par leur répétition. Tenez un exemple récent, c'était pour nos 30 ans au public, le pamphlet d'Eva Almassi contre les dilemmes. Doit-on tourner le rouleau de papier toilette vers la droite ou la gauche? Doit-on forcément dire oui ou non à une demande en mariage? Pourquoi ce système binaire? Le monde se divise-t-il vraiment en deux? Et c'est au tour de Lucas Fournier de dire son mécontentement. Il est contre, mais vraiment contre. Et contre quoi, Lucas?
Contre les Beatles.
Ah bon, pourquoi?
Ah, ben ça, parce c'est que, bien. Bravo.
Parce que to be or not to be,
oui.
Demandait Hamlet, qui se posait des questions. There will be an answer, let it be, répondit John Lennon, qui ne s'en posait pas. Voilà, tout est dit, tout est là dans ce let it be. Let it be. Toute une vie avec les Beatles. Obladi, oblada, obladi, oblada. Non, ce n'est pas un hommage rendu à René de Obaldia, non. Vous, là, autour de la table, les enfants des années 60, Vous êtes de cette génération perdue qui, dès la naissance, fut condamnée aux Beatles à perpétuité. Vous ne saviez pas que la veille de votre naissance, Yesterday, all your trouble were so far away. Vous ignoriez que Yesterday était heureux justement parce que les Beatles n'existaient pas encore. Vous ne vous doutiez pas dans vos berceaux, tandis que la radio diffusait Help me if you can, qu'on ne pouvait déjà plus rien pour vous. Vous passeriez votre vie en compagnie des Beatles. Let it be. Pascal Obispo, la compagnie créole, Bézu et leurs paroles ineptes vous ont incommodé quoi ? Un été, peut-être ?
C'est tout. Même, ouais.
Deux ? Bon, les deux. Mais après, ils ont disparu, forcément. Les Beatles, non. Les
Obispo
Beatles, jamais. Le Beatles est inaccessible. 60 ans qu'il suggère de faire enfin une bonne chanson, Take a bad song and make it better.
Oui.
Mais sans jamais y parvenir. 60 ans qu'ils disent bonjour et surtout au revoir, hello, goodbye, mais ils reviennent tous les jours. 60 ans qu'ils susurrent la même question philosophique sur la solitude, all the lonely people, where do they all come from?
Oui. Hein?
60 ans qu'ils imaginent qu'il n'y a pas de paradis, imagine there is no heaven, et moi j'imagine qu'il n'y ait pas de Beatles, et ce serait le paradis. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger la lecture des 131 millions d'occurrences que leur consacre mon moteur de recherche français, alors qu'il n'en propose, c'est une parenthèse, mais elle est lourde de sens, que 428 000 pour Jacques Vallée.
Ah, quand même
oui,
notre Jacques Vallée,
oui, 428 contre 131 millions, alors qu'il a mille fois leur talent. Dans ce monde est injuste.
Il ne faut pas pousser.
Il ne chante pas en anglais.
Donc, let me take you down, because I am going to Strawberry Fields. Nothing is real. Laisse-moi t'emmener parce que je vais dans le champ de fraises. Rien n'est réel. Si, l'implacable réalité beatélienne est là, qui nous suit partout et me poursuit. Personnellement, je n'aimerais pas tant que ça voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, parce que je sais que là-bas, dans n'importe quel estaminet, dans le lieu le plus reculé, on m'infligerait un air des Beatles. J'ai vu la baie d'Along, d'une jonque monter l'air du sous-marin jaune. J'ai vu une crémation devant un temple de Pashupatina, près de Katmandou. Un vieux transistor susurrait « Lucy in the sky with Diamond ». J'ai vu la ruelle où est né Bulgakov à Kiev. Un saxophoniste y jouait Penny Lane en espérant un copec. Et même dans le café-bar de Lamalou-les-Bains où j'achète un ticket à gratter, Radio Nostalgie m'inflige « Give me a ticket to ride ». Au fond, Aznavour n'avait pas raison. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que le Beatle serait moins pénible au soleil. Non, c'est pire. Salle d'attente, aérogare, café-bar, boutique, autoradio meuglant vitre ouverte, ascenseur, salon de coiffure, grande surface, oreillettes vissées dans le crâne de la génération Y. Mais où ne sont-ils pas ? Des museaux en dents de lapin, des coiffures d'épagneuls, des dandinements de dindons, des jappements de caniches, des pensées de bécasses. Quel est ce mystère ? Comment ces quatre petits Henri Dess, version Liverpool, ont-ils pu inventer l'éternité ? Vous le savez, vous ?
Moi, je vous sens un peu jaloux, en fait. Non ? Hein ? Vous ne trouvez pas ?
Bah, non, mais c'est un vrai problème.
Moi, je ne le sais pas.
Bah, non plus.
Let it be.
Se mettre à sa place, c'est dur à vivre, quand même. Ouais. On va lui acheter un Walkman, elle les casse sur les arrêts, et puis on va le perfuser à Georgette Plana. Et
ça, voilà, c'est une bonne idée, très bonne idée. Yval Massy, qu'est-ce que vous pensez de sa haine des Beatles, quand même, c'est pas normal.
Ah ben, je ne la partage pas, hein, que voulez-vous. Moi, je pense qu'on ne peut pas être contre sa nostalgie.
Mais apparemment, c'est pas sa nostalgie, mais en même temps, il connaît par cœur, vous avez raison.
Ah ben oui, mais
il subit.
Oui, c'est pour ça, je le soupçonne de tricher un peu.
Et alors, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais moi, je lui réponds, avant que les fruits ne finissent en confiture, avant que les entomologistes n'endorment les petites bêtes dans leurs bocaux avec un tampon de chloroforme, avant que les créateurs d'ambiance ne condamnent des immortelles mélodies à être enfermées à perpète dans des ascenseurs, avant tout ça, c'était mieux avant. Qui d'autre, sinon ces quatre garçons, pouvait apprendre à la petite fille éperdue que j'étais? Oh, girl. Oh, oh, girl.
Ça confirme ce que je vous disais.
J'en perds mon oreille. Qu'on pouvait aimer plusieurs personnes à la fois. On n'était pas obligé de choisir parmi quatre, ou même successivement guitariste, bassiste, batteur, chanteur, que finalement, nos hommes, ils se ressemblent tous, hein? Ça vous
mais vous me regardez comme ça, je ne pense pas très directement concerné par ces garçons.
J'avais quoi, 8 ans? Je dansais le slow avec le fils de mon instit. If I hold your hand, la 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 la, j'en ai chaque fois la larme aux yeux.
C'est I want to hold your hand, ça?
Ah oui, c'est non.
I want to hold your hand. Ben, je sais pas, moi, je confonds.
Hey girl, avec... there's something I want you to understand. I want to hold your hand.
Bon, écoutez, ça fait un mélange. Je parle de confiture au début. Attendez que j'essuie mes yeux un peu. Ah, mais je me rends compte mieux maintenant que le fils de mon instit, Arpad, il s'appelait, ressemble davantage à Luca qu'à Ringo Starr. Ça le laisse
pas. Je sais pas ce qu'il vaut mieux.
Bon, mais alors j'arrête là et j'enchaîne sur autre chose. Yoko Ono a filmé un sourire de John Lennon et elle l'a ralenti tellement à l'extrême que John Lennon étire de 5 mm la commissure de ses lèvres pendant 4 heures. Ça ne vous fait rien.
Non, à nous, rien, à vous, beaucoup. Mais...
Moi, ça me fait beaucoup. Il y a des personnes qui écrivent des thèses là-dessus sur la lenteur au cinéma. Il y a eu aussi un roman de Delillo sur un film de Hitchcock ralenti à 24 heures. Mais tout ça, c'est la même école.
Oui, Kundera
ça va
aussi,
très loin, les Beatles, c'est culturel. Or, ce dont j'ai horreur, moi, c'est quand on affiche dans les lieux publics, dans les caisses, les autobus, souriez, vous êtes filmés. Et de toute façon, moi, je danse. Dès que vous me mettez un peu de musique, je danse. Tant pis pour les caméras. Si les Beatles sont partout, c'est que tout simplement, le monde est petit.
Très joli.
Savez-vous où passe Yoko Ono, susmentionnée le plus clair de son temps? Je vous donne en mille à Budapest. Mais si elle s'avise à lorgner sur mon amour d'enfance, Arpad, la vieille garce, alors je vais lui mettre mon poing dans la gueule.
Vous voyez, je trouve que votre pamphlet a eu un effet extrêmement bizarre.
C'est ça, oui.
Je me demande si elle va bien.
Ça donne envie d'aller à Budapest.
Ce que moi, je voulais démontrer par mon pamphlet explication de texte, c'est que l'appréciation des choses est ultra subjective.
Oh ben oui.
Les musiques mobilisent nos souvenirs les plus personnels.
Et que le fils de votre voisin avait des airs de Lucas.
Oui.
En fait, c'était le message lui-même.
Lui-même avait des airs de Ringo.
Et il avait de ces trains électriques, si vous saviez.
Attendez, parce qu'il y a deux hommes en blanc qui ouvrent la porte, je crois qu'on vient vous chercher.
My daughter needs a new phonograph. She wore out all the needles. Besides, I broke the old one in half. I hate the Beatles. She says they have a Liverpool beat. She says they used to play there. Four nice kids from off of the street. Why didn't they stay there? What is all the screaming about? Fainting and swooning. Sounds to me like their guitars could use a little tuning. The boys are from the British Empire. The British think they're keen. If that is what the British desire, God save the Queen. No daughter of mine can push me around. In my house, I'm the master. But when the Beatles came into town, gad, what a disaster. Little girls in sneakers and jeans destroyed the territory. 'Twas like some of the gorier scenes from West Side Story.
Of course my daughter had to go there. The tickets are cheap, she hollers. I was able to pick up a pair for $47. When the Beatles come on the stage, they scream and shriek and cheer them. Now I know why they're such a rage. It's impossible to hear them. Ringo is the one with the drum. The others all play with him. It shows you what a boy can become without a sense of rhythm.
Alan Sherman, qui partage le point de vue de Lucas.
Vous écoutez France Culture, mais vous entendez des papous.
Et c'est bien ça, Eva. Et arrivent Serge Joncourt, Jacques Jouet et Patrick Beignet. Ils sont inventifs. Ils vont oser à tour de rôle gonfler une petite phrase pour l'enrichir en information, en action nouvelle. Ils la détourneront pour lui faire dire autre chose. Et à eux trois, ils bâtiront ainsi une nouvelle histoire. Comme il se doit, la petite phrase doublera en volume à chaque passage. Et un texte parviendra à Jacques Bertrand, un texte riche de leurs imaginations respectives, un texte dont lui devra écrire l'épilogue. Au début de l'opération, eh bien, il y a une phrase, une petite phrase que j'ai piochée dans un roman, mais moi seule sais où. Une phrase en fait pas si petite, je l'avoue, elle est presque copieuse. À charge pour Serge Joncourt de la doubler en volume. Et attention, pas touche au premier ni au dernier mot, qui garderont leur place quoi qu'il arrive. C'est la règle du jeu. On gonfle, mais de l'intérieur, sans toucher au cadre. On écoute la phrase en jeu, Serge Joncourt.
On ne peut guère reprocher à un Turc champion de boxe poids lourd déambulant dans une rue au bras de sa mère de ne pas remarquer qu'il est suivi par un grand échalas en manteau noir.
Voilà.
Je ne comprends pas cette phrase.
Vous ne comprenez pas cette phrase ? C'est de qui ? Vous avez une idée ?
Mauvaise traduction.
Ça, je ne sais pas. Oui, c'est de John le Carré.
J'allais dire. Ben voilà.
Un homme très recherché.
Suivi.
Oui, bah, c'est une indécision.
Ah, vous y avez pensé oui. aussi. Ouais. Et vous, Jacques Jouet, oui ?
Non, mais je n'ai pas eu connaissance de...
De la phrase de début. Non, mais ah, vous venez de l'entendre.
Ah non, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas écouté.
Ah, vous ne l'avez pas écouté.
Non, non. Je ne pas être troublé par la phrase initiale.
Il ne l'a pas très bien lu, d'ailleurs. Vous ne voulez pas lui donner un peu de chance à cette phrase ? Oui, du punch.
On ne peut guère reprocher à un Turc champion de boxe, poids lourd, déambulant dans une rue au bras de sa mère, de ne pas remarquer qu'il est suivi par un grand échalas en manteau noir.
Bon, il y a une vraie situation, on voit le tableau, on voit l'image quand même. C'est une phrase qui fait image.
Ça fait image, oui.
Bah, John le Carré fabrique de l'image.
Il fabrique de l'image, oui. Hein? Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs même. Hein.
Oui,
il y a la mère, le champion, le Turc, l'échalas.
Oui, oui, oui. Donc il y a plein de choses possibles. Et il y a cette idée de filature quelque part.
Oui.
Vous l'avez senti ?
La filature ?
Oui. Le grand échalas qui est derrière le Turc, la boxeur.
Oui, mais enfin, mon propos, moi, c'était de gonfler.
Oui, mais de gonfler avec un projet.
Avec un projet, oui, oui.
Oui, qui est lequel ?
Circassien.
Ah oui.
On ne peut guère demander à un ours en cage de faire moins de bruit quand il ronfle, pas plus qu'on ne peut reprocher à un Turc champion de boxe poids lourd de vous taper le foie sur le ring alors qu'il est convenu que le round dure encore 2 minutes, lors même que la foule hystérique du petit cirque vous acclame. Vous ressortez du spectacle comme un lama au bras de sa mère, au point de ne même pas remarquer que l'ours, ami du boxeur turc, veut sur vous finir le travail et qu'il est de surcroît suivi par un grand échalas en manteau noir.
Alors là, il a fait un roman, hein, parce que vous avez plus que doublé, vous avez quintuplé, sextuplé.
Si je peux me permettre, c'est du le carré au carré.
Oui, c'est un peu ça. Donc il y a plein de personnages. Et puis il y a l'uppercut au foie quand même. Là, on est vraiment dans le sport. Il y a un lama. Jacques Jouet, vous suivez, vous étiez gâté, vous aviez une belle situation.
Gâté, oui.
Très belle situation. Ah oui,
vous ne l'avez pas reçu
enfin,
comme ça.
Enfin, je l'ai reçu comme, plutôt comme du fantomas.
Ah,
ah oui, 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 oui.
C'est possible.
Je me suis dit, allons-y.
Ouais. Ouais, ouais.
On ne peut guère demander la lune à un ours en cage. Pas davantage à un incendie de faire moins de bruit quand il ronfle. Pas plus qu'on ne peut me reprocher de vouloir inventer des numéros toujours plus périlleux et spectaculaires. Si je demande à un Turc, champion de boxe et chauffeur poids lourd, de vous taper un texte sur votre clavier d'ordinateur avec ses gros gants, vous allez crever de rire, cracher la rate et le foie sur le ring. Alors qu'il est convenu que le round et le numéro lui-même durent encore 2h30. Lors même que la foule hystérique du petit cirque vous acclame. Foule dont vous n'êtes plus, puisque vous voilà devenu, à votre corps défendant, artiste. Vous ressortez du spectacle comme un lama qui n'aurait plus rien à cracher au visage du moindre petit Jésus au bras de sa sainte mère, au point de ne même pas remarquer que l'ours du cirque, poignardé par le dompteur Gonzague, ami du boxeur turc, veut sur vous finir le travail et qu'il est de surcroît suivi par une espèce de croque-mort sorti tout droit de Lucky Luke, un grand échalas en manteau noir.
Oh là là, c'est formidable, hein. Ah oui, ça, on a décollé là, hein, avec Jacques Jouet. Je rappelle la phrase de départ de John le Carré. On ne peut guère reprocher à un Turc champion de boxe poids lourd, déambulant dans une rue au bras de sa mère, de ne pas remarquer qu'il est suivi par un grand échalas en manteau noir. Alors personne, ni vous, Serge, ni Jacques, personne n'a gonflé le grand échalas en manteau noir. On n'a pas osé y toucher à celui-là quand même. Bon. C'est vrai.
Bon, on s'est dit que Patrick ferait le travail.
Ah, on va voir, Patrick.
Je n'ai pas gonflé les chalards, j'avais trop peur.
Il faut se méfier des grands flandrins.
Vous êtes resté dans ce roman comme ça de cirque.
Mais oui.
Oui, il n'y avait aucun moyen d'en sortir.
Non, j'étais prisonnier d'un texte qui était très contraignant parce qu'il était très affirmatif et la lecture de Jacques nous a bien fait sentir. Il y avait une clé fantomas que je n'avais pas, évidemment. Et qui,
vous ne l'a pas dit à l'oreille, c'est vrai. Ouais.
Puis quoi encore?
Trop facile.
On ne peut guère demander la lune à un ours qui gambade en liberté dans la prairie, ou même à un ours en cage, et pas davantage à un incendie de faire moins de bruit quand il ronfle. Vous ne refuserez pas non plus mon idée suivante, qu'on ne peut me reprocher de vouloir inventer des numéros toujours plus périlleux et spectaculaires. Vous ne la refuserez pas, parce que c'est là l'essence même de mon art, parce que c'est pour me voir agir ainsi que vous avez payé votre billet et que vous vous êtes installé là, sur ces mauvais fauteuils. Voici, mesdames et messieurs, le premier numéro. Applaudissez bien, monsieur Soliman. Si je demande à un Turc comme lui, champion de boxe et chauffeur de poids lourd, de se cacher dans cette boîte d'allumettes et sans en bouger de vous taper un texte sur votre clavier ordinateur avec ses gros gants, et pas n'importe quel texte, mais la célèbre lettre écrite par Haroun Taziev à Françoise Sagan le 11 mars 1959, eh bien, mesdames, messieurs, vous allez crever de rire, cracher la rate et le foie sur le ring, alors qu'il est convenu que le round et le numéro lui-même durent encore 2h30. Quel retournement de situation imprévu! Quelle sensation! Eh bien, monsieur Soliman, je parie que vous l'avez oublié, pourtant il est toujours là. Monsieur Soliman va se livrer à cet exploit impensable. Et je lui dis, cher monsieur Soliman, lors même que la foule hystérique du petit cirque vous acclame, foule dont vous n'êtes plus, puisque vous voilà devenu à votre corps défendant, artiste en résidence de votre établissement, au fond de votre boîte d'allumettes, vous êtes suffisamment confié à moi, cher monsieur Soliman, pour que je sache que vous ressortez du spectacle comme un lama qui n'aurait plus rien à cracher au visage du moindre petit Jésus dans les bras de sa sainte mère. Alors, le bonimenteur se tut. Le public, nombreux pourtant, se taisait aussi dans l'attente de ce qui allait advenir. Le bonimenteur n'était pas mécontent de son effet, au point de ne pas même remarquer que l'ours du cirque, poignardé par le dompteur Gonzague, ami du boxeur turc, M. Soliman, bougeait encore. Alors tout s'accéléra. Désignant Gonzague, le bonimenteur s'exclama « Il veut sur vous finir le travail !» Et c'est qu'il est de surcroît, suivi par une espèce de croque-mort. Applaudissez-le, mesdames, messieurs. On dirait qu'il est sorti tout droit de Lucky Luke, un grand échalas en manteau noir.
C'est magnifique. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il s'en passe des choses là-bas?
C'est mélancolique et on sent une espèce de tristesse, l'épuisement, tous les artistes.
Oui, ça me fait penser à un film. Frix, non?
Ah oui, voilà.
Frix, c'est un peu ça.
Oui, oui.
Ah oui, oui, oh là là.
Non, pas du tout, avant.
C'est plutôt Lola Montez.
Lola Montez, oui, évidemment.
Ça éclaircit tout, là, du coup.
C'est vrai.
Le discours dont se plaignait tout à l'heure Patrick est parfaitement justifié dans la bouche du bonimenteur.
Absolument. Alors, Jacques Abertrand, vous avez un point de vue, un commentaire, une idée de titre, peut-être ?
Oui, oui, alors tout à fait. Pour moi, c'est tout à fait différent. Pour moi, c'est un roman anglais du 19e, plutôt réaliste. C'est l'histoire d'un gentleman qui pratique le noble art de
la boxe.
Voilà. Et ça s'appelle « Histoire très véridique de l'homme qui avait fait un round de trop ». Et je résume. On a beau être fort comme un Turc et demander régulièrement la lune à tout le monde, danser la rumba sur les volcans avec Taziev ou une valse mélancolique avec Sagan, avoir pour majordome un valet bonimenteur, il faut éviter de faire continuellement son cirque et surtout, éviter de livrer le combat de trop.
Il y a la moralité, il y a tout ce qu'il faut.
C'est une moralité,
hein. Oui. Vous vous rendez compte, Serge, que tout ça est parti de vous, presque, hein?
Non, soliment, l'ours, c'est...
Ce sont les apports de Patrick, de Jacques Jouet, mais enfin, c'est vous qui...
Et puis ce champion de boxe, conducteur de poids lourd, c'est ça.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas uniquement un champion de boxe poids lourd, c'est
autre chose. Non.
Double casquette, non, c'est très fort.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Bang bang, Nancy Sinatra. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, François Strossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, le petit rémailleur illustré et un diagnostic littéraire à l'aveugle, morceau de littérature choisi par Jérôme Clément pour les experts Patrice Minet, Dominique Muller, Patrick Beignet et Eva Almassy. Donc le petit rimailleur avec deux mots au programme à définir sous forme de poème par deux rédacteurs, contrôlés par deux papous, qui tout en écoutant vérifient que tous les sens sont bien traités, même s'ils le sont de façon subjective. Nos dimanches du dictionnaire 2015.
Chemise, pantalon, cardigan.
Rebecca Fournier, je vous ai choisi tout spécialement pour traiter le mot bonheur, parce qu'il faut traiter tous les mots oui. dans notre petit rimailleur, et que le bonheur, on ne pouvait pas le confier à n'importe qui.
Non, et je l'ai trouvé pour vous.
C'est vrai oh, vous allez nous le raconter.
Je vais vous dire comment...
On trouve le bonheur.
Voilà. Oui. Et Hervé Le Tellier, qui ne l'a pas encore trouvé, le contrôlera dans le dictionnaire.
Non, mais je vais d'ailleurs lui donner quelques conseils pour,
c'est bien,
pour y parvenir
content,
rapidement.
C'est bien, Hervé.
Ben, je suis très heureux, j'ai toujours voulu aller vers le bonheur.
Donc, donc Hervé, on peut trouver son bonheur en allant tout de go en dessous du bongo. Le bongo n'est pas en Afrique, mais bien au sud de l'Amérique. C'est un tam-tam local.
Hein?
On peut trouver son bonheur en allant faire un tour sur un bonheur du jour. C'est un petit bureau de dame à casier secret où les femmes cachaient leur carnet de bal. On peut trouver son bonheur juste entre ces deux mots, bonheur du jour, bongo.
Oui.
Ce n'est pas vraiment un hasard, il est dans le bonheur une part de secret et de musical. On peut trouver son bonheur en sept lettres, une chance qui n'existe qu'en France. Gluck, happiness, felicita, chiechne, c'est du polonais. Non, ça ne marche pas. Le bonheur est original. On peut trouver son bonheur en étymologie, la version élargie de bonum et d'augurium. On avance vers le podium. Le bonheur est lexical. On peut trouver son bonheur en à peine deux lignes où Larousse la signe. 1. État de satisfaction. 2. Chance en situation. On peut trouver son bonheur ailleurs, loin du dico.
Ouais, sûrement.
La poésie, la philo, on cherchait. En vain la recette, le secret dans les cœurs, dans les têtes. Le bonheur est symptomal. On peut trouver son bonheur en regardant Rosa ou Gaston autrefois. Le bonheur était dans le pré, il peut finir sous le cyprès. Le bonheur est sentimental. Ah, et maintenant, le bonheur est passé.
Ah, c'était un petit instant comme ça, si rapide. Ouais.
Égal à la définition
c'est vrai qu'il faut misérable du dictionnaire. Profiter des moments de bonheur,
mais oui.
Hervé Le Tellier.
Oui. Écoutez, je crois qu'on peut dire qu'il y a presque tout, puisqu'il y a même le bonheur du jour.
Oui.
Le bonheur du jour étant quand même un petit morceau de marqueterie, quoi. C'est magnifique, il est casé ça. Mmh. Alors, peut-être une petite citation.
Hein, oui, oui.
Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est de Yourcenar, et que je crois est connue. Le bonheur n'est peut-être qu'un malheur mieux supporté. C'est pas gay, hein.
Non, c'est pas gay, mais...
Voilà.
Mais ça se digère,
voilà.
Oui.
Une remarque peut-être sur Gluck, qui est un mot allemand, donc qui veut dire deux choses à la fois, ce qui est très intéressant du point de vue simplement de la psychologie allemande. Je voudrais rappeler que Gluck veut dire à la fois bonheur et chance. Ce qui veut dire que le bonheur, ça ne peut pas s'obtenir comme ça, c'est vraiment une chance. C'est très, très allemand, très réformé, vous voyez, très luthérien comme démarche. Et je n'ai rien d'autre à dire.
Et de la même façon, de la même façon qu'en allemand,
Schuld,
Schuld, la Schuld. Dette,
c'est aussi la culpabilité.
C'est la faute,
évidemment.
Bon, est-ce que le poème de Lucas Fournier vous a montré la voie du bonheur, Hervé ?
Oui. Quand j'étais petit, j'avais tapé sur un situ qui était, vous vous souvenez, ces trucs de la RATP où on pouvait trouver son chemin.
Oui.
Et donc j'avais tapé, ça demandait où voulez-vous aller ? Donc j'avais tapé bonheur. Et la machine m'avait répondu, vous voulez aller vers le bonheur ? Pour aller rue Rosa Bonheur, et j'en avais pour 27 minutes. Donc vous voyez, je dis à tout le monde, 27 minutes pour le bonheur, qu'est-ce que c'est ?
C'est rien, c'est rien. Je sens que Violaine lève son petit doigt, vous avez quelque chose à dire, vous aussi, une citation peut-être ?
Une jolie citation d'Épicure,
qui
est... Le bonheur, c'est fermer sa porte et se rendre compte qu'en fait, on a ses clés.
C'est
un grand moment.
Non, mais on reconnaît bien Épicure. Hein.
Beaucoup moins Diogène, par exemple, parce que lui, il n'a pas de clés.
Ah, il a un tire-bouchon.
Tire-bouchon.
Patrice Comon, vous avez travaillé sur le mot image.
Oui, absolument.
C'est un mot inspirant.
Sur l'image.
Oui. Sur l'image.
Oui, est-ce un mot?
Je ne sais pas. C'est un mot, c'est à vous de le
définir.
C'est
un pictographe.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas ce que va contrôler Violaine. Est-ce qu'elle va contrôler un dessin ou des mots ?
La qualité de l'image, c'est tout.
La qualité de l'image. Vous êtes sur l'image, Violaine, dans le dictionnaire de référence. Voilà. Alors, c'est parti. L'image se présente comment ?
Sous forme d'imagier.
Oui.
En mirliton.
Oui.
L'ombre et le reflet font l'image chez Platon. À Rome, c'est l'ombre d'un cher disparu, dit-on. Toutes les images ne sont que feuilles mortes du royaume de Pluton. Elles nous ouvrent la porte. Sur ses intentions, l'image est toujours floue. Sa netteté n'est point preuve d'honnêteté. ce reflet, ce miroir de Narcisse et l'écho qui ne fait que trahir, l'imago, c'est Iago. Trompeuse, menteuse, hypocrite et sournoise, elle séduit, elle promet, elle sous-tend, elle fait croire. Perverse et troublante, elle nous cherche des noises. C'est Méduse qui tue en allant se faire voir. L'image n'est qu'une tigresse de papier, et sa seule force est celle qu'on lui prête. Elle fait croire qu'on a pied, c'est pour mieux nous noyer dans la langue des signes, car l'image est muette. C'est le marque-page de nos anciens missels, de nos communions souvenirs solennels. On fait croire aux enfants qu'image se mérite et qu'elle vaut 10 bons points de très bonne conduite. Le grand trompeur, le fausse, le Satan des images, c'est le cinéma et son permanent mirage qui en balance 2 douzaines par seconde, image stérile que le son rend féconde. Sage comme une image, c'est un bel oxymore, car l'image ne songe qu'à troubler, dissiper, image de charme exhibé qu'on dévore, image de synthèse en virtuel souper. Image de marque, de réclame matraque, chasseur d'images mentales au divan traque, sera la met au point et peint des petits pois, bien avant les pixels qui vendent l'image au poids. Les iconoclastes avaient vraiment raison, idoles d'aujourd'hui vont pousser à foison. L'image n'est qu'un plus ou moins pieux mensonge, l'écran nous fascine, mais fait écran au songe. Numérique ou pas, ce sont toutes des clichés, comme nos métaphores de pathos entichés. Tout ce flot d'images nous dilue la rétine. Sous ce flux, la plus belle âme devient crétine. Tout ce flot d'images nous dilue la rétine.
C'est bien, c'est
magnifique.
Bien.
Ah, oui,
il y a plus de pantoum à la fin.
Exactement, oui, 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 oui. Et même pas négligé.
Non,
hein.
Non.
Vraiment très beau.
Violaine, vous étiez hein, sous le charme comme
complètement,
nous. Alors.
J'arrivais à peine à lire, tellement j'étais sous le charme.
Bah oui, oui.
Voilà.
Donc du coup, est-ce qu'il a oublié quelque chose? Non, je ne suis pas sûre.
Là, je tombe sur Images d'Épinal.
Ah. Oui, je l'ai volontairement
mise de côté.
Et de pourquoi côté.
Bah parce que je
justement Images d'Épinal.
Il y avait quelque chose du mot l'Épinal.
Ah oui, vous n'aimez pas la ville.
Non, mais les rimes en pinal.
Ça.
Quoi? Ah oui.
C'est rédhibitoire. Il y a rien à dire. Mmh, rien à contester. Oui. Mmh. À part ça.
Une citation de Cocteau qui est tout au début du. De la définition. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images.
Ah ben bah naturellement.
Bah alors, oui.
Évidemment.
Moi j'ai une citation aussi de Marguerite Duras qui disait « Sans images, le cinéma, c'est de la radio, mais sans le son, c'est encore du cinéma. Bien que le cinéma, sans le son et sans images, ce ne soit pas grand-chose. »
On pourrait presque la réécouter, hein, parce que
oui,
pas sûr d'avoir tout mémorisé. You brought a new kind of love to me. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. le DLA au diagnostic littéraire à l'aveugle. En maître du jeu, Jérôme Clément, il nous tend un piège. Et il a un certain talent pour ça, Jérôme. Choisir un petit bout de littérature dans sa foisonnante bibliothèque et le proposer en lecture anonyme à l'expertise de ses camarades et à la vôtre, vous qui jouez chez vous, à ce jeu ô combien difficile mais ô combien amusant. Décortiquer une quinzaine de lignes extraites d'on ne sait où, écrites on ne sait quand par on ne sait qui. Et justement, c'est la réponse qu'il faut donner en fin de jeu. Qui a écrit ça? Et avec des arguments littéraires si possible, même s'il est tentant de se laisser aller à l'intuition ou au pif, mais ce n'est pas bien vu au papou. Nous sommes sur France Culture et le revendiquons. Les experts aujourd'hui, Dominique Muller, Patrice Minet, Eva Almassy et Patrick Beignet. Pour le DLA du jour, c'est parti. On vous écoute, Jérôme Clément.
Tout au début de la Genèse, il est écrit que Dieu a créé l'homme pour qu'il règne sur les oiseaux, les poissons et le bétail. Bien entendu, la Genèse a été composée par un homme et pas par un cheval. Il n'est pas du tout certain que Dieu ait vraiment voulu que l'homme règne sur les autres créatures. Il est plus probable que l'homme a inventé Dieu pour sanctifier le pouvoir qu'il a usurpé sur la vache et le cheval. Oui, le droit de tuer un cerf ou une vache, c'est la seule chose sur laquelle l'humanité tout entière soit fraternellement d'accord, même pendant les guerres les plus sanglantes. Ce droit nous semble aller de soi parce que c'est nous qui nous trouvons au sommet de la hiérarchie. Mais il suffirait qu'un tiers s'immisce dans le jeu, par exemple un visiteur venu d'une autre planète, dont le dieu aurait dit « Tu régneras sur les créatures de toutes les autres étoiles ». Et toute l'évidence de la Genèse serait aussitôt remise en question. L'homme attelé à un char par un martien, éventuellement grillé à la broche par un habitant de la Voie lactée, se rappellera peut-être alors la côtelette de veau qu'il avait coutume de découper sur son assiette et présentera, trop tard, ses excuses à la vache.
C'est un texte délicieux, amusant,
oui.
Non ?
Oui, amusant, pince sans rire.
Oui, exactement. Patrick Beignet, vous avez l'air sinistre.
Oui, c'est, pas sans, c'est surtout sans rire pour moi.
Oui, d'accord.
Oui, je trouve ça un peu lourd, presque moralisant.
Oui, mais faussement moralisant. Non, c'est un jeu, non ?
Moi, je pense que c'est un jeu. Alors, une première impression, Dominique.
Il me semble que c'est écrit par un monsieur de Grande-Bretagne, à cause de cette obsession du cheval, de la vie... Enfin, un gentleman farmer, autrement dit, n'est-ce pas ?
Mmh, Patrick Beignet.
Et moi, je pensais à un auteur dont je tairai le nom ce stade du jeu.
Tôt, oui.
Mais je suis tout à fait d'accord sur la Grande-Bretagne. Mais pas pour le cheval, mais enfin...
Pourquoi ?
Ah bah pour le...
pour la vache ?
Non, pour... Enfin, c'est très curieux. Si je garde cette hypothèse, ce sera difficile à expliquer. Parce que c'est un auteur que j'aime bien et je n'aime pas ce texte.
Ah.
Mais c'est l'usage de la logique.
Peut-être une fausse logique, oui, à côté de nonsense.
Je mettrais que c'est un peu pince sans rire, effectivement.
Bon, je vois à qui vous pensez.
Oui, ben,
première impression, Eva Almassy.
Et je pense aussi au même, entre autres. C'est un texte qui est une petite démonstration et qui arrive à sa fin. Ce qu'il prend au début, mais même... Au début du début, parce que le tout début de la Genèse, donc
oui.
Il n'y a plus
tout.
Rien en deçà.
Oui.
Et il arrive à sa conclusion, les excuses. Donc il y a toute la chute de l'homme aussi dans cette histoire qui est en effet très morale et très biblique, parce qu'à la fin on demande pardon, mais quand est-ce qu'on remet son pardon ? À sa mort, puisque là, en l'occurrence, on a été rôti à la broche. Donc, c'est un petit texte extrêmement bien tourné et qui fait, la boucle est bouclée.
Mmh, donc, c'est un texte qui se suffit à lui-même. Vous êtes d'accord, Patrice Minet ?
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit.
Oui.
Et ça pourrait être un auteur, évidemment, anglo-saxon, peut-être même américain. Et puis, ça pourrait aussi être un auteur un peu plus moderne et français.
Et ah bon, oui,
voilà.
Évidemment. Oui.
Est-ce que ça vous suffit
plus comme... moderne que quoi, je ne comprends pas.
Plus moderne que,
anglais
que,
ou américain.
Que nous.
Anglo-saxon.
Plus moderne que nous.
Mais alors justement, ça se passe à quelle époque ? Enfin, quelle est l'époque d'écriture, Patrick Beignet ?
C'est après le début de la Genèse.
Exact.
Oui, oui, oui.
Brillant.
Écoutez, moi je mettrais ça dans l'entre-deux-guerres ou dans la première moitié du XXe siècle.
Ouais.
Il y a déjà l'allusion aux martiens, enfin cette espèce de donc ça veut dire que ça n'est pas si vieux que ça comme texte.
Mars est assez vieux quand même.
Oui, les martiens.
Un bon sens d'importation récente.
Oui.
Oui, effectivement, ça permet de dater un point.
Encore que.
Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ça commence par la Genèse et que ça finisse par une côtelette de veau.
Oui, éventuellement, on peut résumer ça comme ça.
Oui.
Donc, il y a une ellipse formidable.
Oui.
Hein.
Oui.
Et tout ça, ça raconte la vie.
Ben, d'une certaine façon, oui.
Oui.
Et le renversement de la, mais du point de vue, ça a été beaucoup fait. C'est Swift dans Gulliver où il y a les chevaux à la place des hommes. Donc c'est quelqu'un qui a lu tout ça, qui est peut-être même postérieur à la ferme des animaux d'Orwell. Enfin, c'est vraiment 20e siècle, déjà largement bien entamé, probablement.
C'est lu et bien digéré.
Oui, exactement. Ouais. Mieux que la côtelette.
C'est une série de petits textes qui constituent un recueil, vous pensez, Patrick Beignet ?
Oui, je suis prêt à le penser.
Et les autres raconteraient quoi ?
Oh ben, des choses du même ordre.
Ah.
Enfin, ce sont des ça pourrait être des chroniques hebdomadaires dans un journal de l'Auvergne, par exemple. Ce qui est moins c'est ce genre de choses.
Ah oui, vous ouvrez grand nos yeux sur autre chose.
Je veux dire, c'est le principe de la chronique journalistique. Avec ce que ça a d'un peu court dans tous les sens du mot.
Vous êtes d'accord, Patrice Minet ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Moi, je trouve que c'est très bien quand c'est court. C'est-à-dire que je suis
pas
très...
dit le contraire.
Petit jugement de valeur quand même chez vous, Patrick.
Je suis très reconnaissant.
Dans le côté chronique journalistique.
Mais je ne pensais pas que Patrice avait compris.
Non, mais c'est vrai, je suis très reconnaissant à quelqu'un qui dit très rapidement quelque chose que d'autres auraient pu mettre 30 pages à écrire et ça m'aurait aussi intéressé. Voilà, c'est léger. C'est le ton de la conversation.
Ça ne prétend
bien
pas.
Bien entendu, il n'est pas du tout certain, il est peut-être probable. Vous voyez, c'est simple, c'est clair, c'est léger, ça ne prend pas la tête. Et au fond, ça fait résonner des choses amusantes et peut-être réfléchir certains, pas d'autres.
Et c'est écrit directement donc en anglais apparemment pour vous tous
ou en français avec la
comme l'a dit Patrice Minet,
oui, parce qu'il y a des auteurs français
non mais vous l'avez dit Patrice
voilà. Oui, et pas forcément des écrivains
ah alors est-ce que vous avez vous avez une piste autre journalistique comme
non pas journaliste moi je pense à un musicien.
Vous nous direz tout à l'heure.
Aussi. Oui. Ah, très bonne idée.
Dominique Muller, bon, Patrick pense que c'est un petit texte qui se trouve avec d'autres petits textes, plus ou moins du même genre, dans un recueil.
Oui. Si c'est un recueil, c'est sûrement une espèce de recueil de fausses pensées, comme ça. Voilà.
C'est pas plutôt un petit morceau dans quelque chose de plus dense
Mais dans quoi
et qui pourrait être ce petit morceau, la réflexion d'un des personnages sur la vie.
Il n'y a aucun personnage aucun paysage. De toute évidence, on est dans la tête de quelqu'un qui donne son avis, voilà. L'auteur, en l'occurrence.
Qui ne dit pas « je », mais c'est ce qu'il pense, lui.
Oui, il me semble.
Oui. Jérôme Clément, on vous écoute.
Tout au début de la Genèse, il est écrit que Dieu a créé l'homme pour qu'il règne sur les oiseaux, les poissons et le bétail. Bien entendu, la Genèse a été composée par un homme et pas par un cheval. Il n'est pas du tout certain que Dieu ait vraiment voulu que l'homme règne sur les autres créatures. Il est plus probable que l'homme a inventé Dieu pour sanctifier le pouvoir qu'il a usurpé sur la vache et le cheval. Oui, le droit de tuer un cerf ou une vache, c'est la seule chose sur laquelle l'humanité tout entière soit fraternellement d'accord, même pendant les guerres les plus sanglantes. Ce droit nous semble aller de soi, parce que c'est nous qui nous trouvons au sommet de la hiérarchie. Mais il suffirait qu'un tiers s'immisce dans le jeu, par exemple un visiteur venu d'une autre planète, dont le dieu aurait dit « Tu régneras sur les créatures de toutes les autres étoiles ». Et toute l'évidence de la Genèse serait aussitôt remise en question. L'homme attelé à un cheval par un martien, éventuellement grillé à la broche par un habitant de la Voie lactée, se rappellera peut-être alors la côtelette de veau qu'il avait coutume de découper sur son assiette et présentera, trop tard, ses excuses à la vache.
Donc il y a une espèce de moralité quand même, en quelque sorte,
oui,
Patrice
c'est
Minet.
Pour notre éducation.
Voilà. Oui. Alors est-ce que c'est un livre qui a vocation d'être lu par des enfants ?
Moi je trouve que c'est un peu subtil, moi. L'ironie et le décalage pour des enfants de quel âge ? Enfin pas avant 15 ans, voilà.
Oui, oui.
On n'est plus un enfant à 15 ans.
Non, on est adolescent.
C'est pas pour toi, moi j'étais encore un enfant à 15 ans.
On a vu du pays à 15 ans.
C'est écrit pour qui, Patrick Beignet ?
Sans doute pas pour moi. Oui, je dis que je trouve ça un peu moralisant. Ce qui m'énerve particulièrement, c'est le fraternellement d'accord.
Oui.
Ouais. Là, il ne faut pas citer de nom, mais on est plus du côté des moralistes de Charlie Hebdo que, que de Champfort ou de... Bon, c'est facile quand même.
Mais ça, c'est le côté anglais, justement, tous ces adverbes, cette accumulation.
Mais c'est-à-dire, à réentendre ce texte superbement lu par Jérôme, j'ai trouvé, enfin, il me semble que le point faible, enfin, je n'avais pas senti à première lecture, c'est ce droit nous semble aller de soi parce que c'est nous qui nous trouvons au sommet de la hiérarchie, qui endosse la situation qu'il prétend critiquer. Il essaie de nous dire que nous ne réfléchissons pas à notre rapport au monde, mais il a l'air de le trouver tout à fait naturel et d'en faire le fondement de sa réflexion.
Il y a un écrivain français qui donc a écrit de la musique et qui est très ironique. Et il fait cette espèce de fausse morale de temps en temps. Il donne des espèces de leçons qui sont assez vertigineuses parce que c'est absurde, ça semble avoir un sens, ça n'en a pas. Puis au bout d'un moment, au bout de 15 jours pour certains, 3 ans pour d'autres, mais si, ça voulait dire quelque chose. Voilà. Et donc c'est très amusant. Je ne pense pas que ça soit lui.
Mais il donne. C'était très gentil de nous parler.
Non, parce que je pense à un autre écrivain anglo-saxon.
Musicien également.
Oui, non, pas musicien. Mais enfin, je pense qu'Éric Satie aurait pu écrire ce genre de choses.
Oui, oui, on a tous pensé à lui quand vous avez parlé d'un musicien.
Et il y en a un autre,
mais...
qui est notre contemporain, il est mort il y a quelques années, et c'est Dubillard. Et dans ce livre de Dubillard, il y a des textes qui ressemblent à ça. C'est-à-dire des espèces de démonstrations absurdes, où il grossit des choses qui sont minuscules et il passe brièvement sur des choses énormes. Voilà, et il y a un ton de conversation. Hein, il y a un côté chiffon.
Un côté dialogue.
Voilà, bien entendu, mais il suffit. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. C'est presque du parler, quoi.
Mais si c'était du billard, ce ne serait pas du tout une leçon de morale dans ces cas-là, Patrick Beignet.
Je ne sais pas.
Mais il fait beaucoup de morale, du billard.
Il ne me semble pas que ça en soit une. Il me semble que c'est du jeu.
Ce genre de texte, oui, il s'amuse, du
Il n'est pas moralisateur, mais il fait beaucoup de morale.
Il s'amuse.
Ah, mais c'est du jeu, bien sûr.
Oui, le côté moralisateur dont parlait Patrick Beignet était un petit peu ennuyeux.
Mais le texte fait sourire, mais...
Ah bon, quand même.
Mais même moi, oui.
Ah bon.
Mais...
Ah en seconde lecture, alors.
Non, j'ai pas voulu opposer... Enfin... Le côté moralisant est un des moyens de faire sourire dans ce texte.
D'accord.
J'ai du mal à m'exprimer tout à l'heure.
Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou vous jetez des noms bravement, courageusement, Dominique Miller?
La phrase qui m'intrigue, c'est « La jeunesse a été composée par un homme et pas par un cheval ».
Oui.
Pourquoi pas par un hibou C'est pourquoi je continue sur la lancée de mon gentleman farmer.
Ouais.
Et donc, je citerai Woodhouse.
Ah, Peachy.
Oui.
Peachy Woodhouse.
Qui est très léger, enfin c'est une sorte de douce, voilà.
Ça pourrait être le genre de lecture de Jérôme Clément. Hein Oui, il ne dira rien, mais il prend son petit air. Seule sa barbe sourit.
Tout à l'heure en plus.
Alors Woodhouse, très bonne idée. Patrice Minet, vous avez jeté le nom de Roland Dubillard, vous le gardez
ou... Pas du tout, non.
Non.
Je l'ai cité pour dire que c'était probablement pas de lui.
Ni d'Éric Satie, non. Alors.
J'ai lu beaucoup de chroniques d'Ambrose Bierce. Vous savez qu'il a écrit des dizaines et des dizaines de chroniques dans des journaux américains. Quand on les lit, il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont moins bonnes.
Ouais.
Mais il y en a qui, avec le temps, ont perdu un petit peu de leur sel du côté détonnant que ça pouvait avoir à l'époque. Ça pourrait se situer dans ces catégories-là.
C'est bonne idée.
Voilà.
Ambrose Bierce.
Oh, si j'y avais pensé, je l'aurais dit.
Mais
que
jalouse.
Mais que j'ai noté, en tout cas, Ambrose
Bierce. Eva Elmassi, oui, montrez votre feuille à Patrick Beignet qui pourra certifier.
Non, mais j'ai témoigné. J'ai suivi la piste d'Éric Satie, la chronique. Alors, si c'est une chronique, ça peut être Vialat aussi. Ça ne mange pas de pain. C'est le...
Oui.
Sauf qu'à la fin, ce serait Allah. Et c'est ainsi que la raison est grande.
Il y a trop d'adverbes, quand même.
Oui.
Et alors,
je vais dire la Viscarole.
Ah oui, on y pensait au début quand Patrick Beignet a fait une certaine réflexion sur la logique.
Oui, sur la logique, c'est ça. Oui. On est dans le subliminal. J'entends ce que mes camarades disent, mais en même temps, ça colle bien.
Et vous, Patrick Beignet?
Eh bien, je ne pensais pas du tout à la Viscarole.
Ah bon?
J'avais oublié son existence. ça m'a d'emblée fait penser à Chesterton.
Ah,
comme, Chesterton, comme logique, comme méthode d'écriture.
Mais que bien.
Oui, mais
beaucoup.
Oui,
plus
mais
encore.
Sauf que Chesterton est, il est du côté de Dieu, disons.
Oui, c'est,
hein.
Oui.
Et mais
et de Dickens.
Et ça, ça fonctionne
et de
quand même.
Et donc vous gardez Chesterton.
Je garde Chesterton.
Tout ça est très anglais quand même, hein, je vous dis.
Et américain.
Et oui, bien sûr, Ambrose Bierce, naturellement. Bon, Jérôme Clément, alors vous avez un choix magnifique. Dominique Muller propose Woodhouse, Patrice Minet, Bierce, Eva Almassy, Carole, Lewis, Carole, et Patrick Beignet, Chesterton, dont je ne connais pas le prénom, Patrick.
C'est c'est Gilbert Keith.
D'accord. Donc en anglais, on dit J.K. J.K. Chesterton, donc c'est pas mal hein, quand même. Peut-être
on
ils
peut
sont...
en conclure tout de suite que c'est certainement c'est... pas un anglais.
C'est là où nous allons trouver Kafka.
L'œil de Jérôme qui frise, oui. À mon avis, mais vous êtes trompé.
Au vide.
L'œil frise parce que vous avez tout faux.
Alors tout, voilà. Tout,
non,
bah oui.
Non, mais non, attendez. Non, il y a une remarque. Il y a quand même tous, vous avez tous tapé juste en disant que c'était un texte ironique. Bon, remarquez, il suffit de le
c'est
lire.
Pas heureusement qu'on l'a remarqué.
Mes félicitations s'arrêtent là. C'est-à-dire que vous avez quand même compris que c'était un auteur qui savait manier l'ironie et qui avait une certaine. Voilà. Alors maintenant,
donc,
à, part ça,
perdu.
À part ça. Bon, les noms que vous avez évoqués ne correspondent absolument pas à ceux que j'avais notés.
Même ceux qui ont été rejetés, mais mentionnés par Patrice Minet, Rick Satie, Roland Dubillard.
Non, non. Non, malheureusement.
Allez, quoi.
Vialat.
Essayez de nous...
Je vais vous suggérer trois noms et vous choisirez l'un de ces noms parmi les trois que je vais citer.
Oui.
Oscar Wilde, là on se rapproche de l'Angleterre.
Ah, tout de même. Oui.
Diderot. C'est ça, Kundera.
C'est... Ah, Kundera, ça peut être.
Oscar Wilde, Milan Kundera, Denis Diderot.
Voilà.
Mmh. Belle
assez,
cible.
C'est assez éclectique.
Oui. Alors, qui veut réfléchir tout haut en premier?
Moi, je ne réfléchis jamais, donc je peux commencer. Bêtement, pour une question très, très concrète, je pense que ça ne peut pas être Diderot à cause de l'histoire des Martiens et de la Voie lactée et de la côtelette de veau.
Allez savoir, voilà. Parce que si Jérôme Clément a mis Diderot,
oui,
c'est
il y a déjà
même...
les textes de Fontenelle qui, évidemment, parlent de désastres. Mmh. Bon, je dirais Kundera.
Alors, un petit argument en faveur.
Oui,
mais encore.
On pourrait passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît.
Mais moi, je
me sens
je,
pas très bien. Ça, parce que c'est un tchèque, et ça pourrait être du Hachek ou du Rabal, ce texte. Il y a une tradition tchèque de l'ironie, de la même façon qu'il y a une tradition anglo-saxonne.
Voilà, qu'est-ce qu'on lui dit à Eva Almassy, Dominique
Merci
Miller.
Beaucoup. Et surtout, il me semble que Wilde a plus de bons mots directs, alors que ce texte est un peu en dessous. Et incroyablement, moi, réalisateur qu'on verra, ça c'est...
Et donc, vous optez pour lui aussi, Eva?
Oui, j'opte pour lui.
Ah, nous avons deux Milan Kundera.
Mais bien sûr, c'est deux Milan Kundera.
Patrick Beignet.
Eh bien, vous avez trois Kundera parce que...
Ah bon,
que...
vous aussi?
Ben oui, parce que White est quand même mieux que ça, ça va plus vite... C'est...
Vous avez tout lu, évidemment, de Wilde.
Absolument.
Hein, évidemment.
Voilà, Wilde fait rire sans qu'on comprenne pourquoi, disons.
Exact, on n'a pas besoin de comprendre pour rire.
Même quand on ne parle pas anglais.
Voilà. Bon, Diderot, les arguments de Dominique sont justes, effectivement. Je n'aurais pas pensé à invoquer les Martiens pour évoquer Diderot. Mais il reste Kundera, il y a un côté un peu pédagogique et effectivement moralisateur qu'il aime bien afficher.
Patrice Minet, vous ?
Il n'aura pas le courage de choisir un autre.
Je vais prendre Diderot. Je vais prendre Diderot. Bon, si ça l'est, alors je serai le premier surpris. Mais je vais prendre Diderot, et vous savez pourquoi ? Parce que moi, ça me fait penser aux... les copines à Voltaire écrivaient beaucoup de contes de fées. Vous savez, il avait toute une auto et très entouré, et donc il avait ses amis qui écrivaient des contes de fées. C'était la mode. Et dans ces contes de fées, il y avait des fées, mais il y avait aussi des créatures étrangères, d'autres mondes, etc. C'était à la fois des contes traditionnels et puis des contes plus modernes. Et je me dis que Diderot il devait naviguer dans ces eaux-là aussi de temps en temps. Et je ne vois pas pourquoi il se serait gêné pour aller chercher des martiens ou des lunaires ou ce que vous voulez et les mettre devant une côte de veau. Voilà. Donc, moi, je prends Diderot.
Ça, c'est argumenté. Alors, trois Milan Kundera, ceux de Dominique Muller, d'Eva Almassi, de Patrick Beignet et un Diderot pour Patrice Minet. Y a-t-il trois vainqueurs, un vainqueur ou zéro vainqueur parce que personne n'a choisi Oscar Wilde?
Alors, vous vous êtes rattrapé au deuxième tour parce qu'il y a trois vainqueurs. C'est effectivement de Milan Kundera. Et Diderot était effectivement un piège, mais compréhensible, puisqu'il a écrit Jacques le Fataliste, que Kundera a adapté en pièce de théâtre, et qu'il y a beaucoup de liens, en fait, souvent dans l'écriture et dans la façon de penser entre Diderot et Kundera. Il se réfère beaucoup, d'ailleurs, dans le côté un peu dispersé de ses romans, dans cette façon d'écrire qui part des digressions. Donc c'est pour ça qu'on trouve chez Kundera beaucoup de passages dont on ne sait absolument pas d'où ils peuvent être tirés et qui sont en fait des réflexions personnelles que l'auteur projette à un moment donné de l'histoire et qui sont des mines pour cette émission, évidemment. C'est tiré de L'insoutenable légèreté de l'être.
Ah bon, pourtant, je le connais par cœur, quasiment.
Bah oui, justement, je pensais que voilà, c'est à la fin, dans le passage ou le chapitre qui s'appelle « Le sourire de Karénine », d'un seul coup, il part sur une digression comme ça, avant que Teresa s'avance avec son troupeau de génisse, il part sur une digression sur la Genèse. Voilà.
Donc c'était bien dans un grand roman, une petite chose comme ça, comme une parenthèse, et non pas une série de courts textes.
Oui. Voilà.
Ouais.
Et voilà. Pardon, donc vous étiez mal parti au début, et vous vous êtes quand même bien rattrapé à la fin. Je ne peux que féliciter les trois gagnants, mais aussi le perdant, parce que le perdant avait quand même vu la filiation entre Kundera et Diderot.
Qui perd gagne.
Puis on sait très bien que Diderot a écrit une grande partie des œuvres
de Kundera. Des papous dans la tête, fin de partie pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. Rendez-vous sur franceculture.fr pour télécharger le numéro du jour. C'est le podcast pendant un an. Ne vous privez pas. Et puis, la réécoute pendant 1000 jours directement à la page du 11 janvier. Page sur laquelle vous pouvez glisser vos réflexions, questions, suggestions. Rubrique commentaires. Vous consultez aussi les pages vie du club et les livres des papous pour tout savoir ou presque de nos activités. Et notamment la lecture des papous le samedi 24 janvier au Havre. Au revoir, j'entends le pas pressé d'Antoine Perrault dans le couloir. Il arrive, il est presque là pour tire ta langue dans une poignée de secondes. Passez un très bel après-midi sur France Culture. Papa.